Révélation nombre 6673 du 20 octobre 1956. Réponse à des questions concernant la conception immaculée et la supériorité des âmes de la lumière. Je veux vous aider dans toute détresse terrestre et spirituelle afin que vous croyiez en mon amour, en ma sagesse et en ma puissance. Car j'aime infiniment mes créatures, et je veux gagner votre amour aussi. Je connais votre détresse, et je sais comment y remédier, et je possède la puissance d'y remédier. Et aux enfants qui s'adressent à leur père en le priant avec confiance de se souvenir d'eux et de leur venir en aide, combien volontiers je leur montre mon amour, ma sagesse et ma puissance. Je veux vous tirer des détresses terrestres et spirituelles. Parfois pourtant, dans les détresses terrestres, j'exige votre patience parce que moi seul sais pourquoi il a fallu qu'elle vous arrive. Mais je vous en tirerai. Mais celui qui se trouve en détresse spirituelle n'aura pas besoin d'attendre longtemps, car si seulement il me demande de penser à lui, je suis déjà prêt à l'aider. Les détresses spirituelles sont des faiblesses de l'âme, c'est-à-dire une volonté affaiblie, une obscurité de l'esprit et des doutes fréquents. La détresse spirituelle, c'est l'action et l'influence de mon adversaire, qui souvent ose approcher ces personnes qui m'appartiennent déjà, et qu'il voudrait avoir de nouveau sous sa puissance. Et tant que la personne vivra sur terre, il cherchera à exercer son influence, et il essayera toujours de nouveau de l'affaiblir. Mais dès que la personne s'adressera à moi, elle le chassera, et je ferai affluer ma force. Et je la munirai de lumière et de connaissance. Ainsi j'exauce sa prière de détourner la détresse spirituelle. Sachez qu'il importe à mon adversaire d'éteindre la lumière de la vérité qui par sa grande clarté perce partout pour chasser les ténèbres car là seulement, mon adversaire peut agir. Donc il tâchera d'éteindre la lumière. Il veut la couvrir d'ombre en soufflant aux hommes des questions contenant des doutes pour assombrir la lumière de la connaissance. Mais cela je ne l'admets pas, au contraire, ma lumière qu'il cherchait à assombrir n'en éclatera que plus clairement en éclairant la nuit. Et là où il y aura encore une ombre, elle sera consumée par la lumière venant de moi dont les rayons percent et irradient tout. Car dans cette lumière, rien d'obscur ne pourra persister. Et ainsi, la lumière éternelle même, vous annonce ceci. Vous qui vivez sur la terre. De même que tout spirituel ayant déjà parcouru la vie terrestre en tant qu'homme. Vous êtes à peu d'exception près du spirituel jadis déchu, car des êtres lumineux aussi s'incorporent sur terre. C'est-à-dire que du royaume de la lumière, des êtres descendent pour se joindre à vous autres hommes pour vous secourir quand vous êtes en profonde détresse spirituelle. Donc il faut que vous distinguiez les esprits originels qui ont fait défection de Dieu, et les esprits originels qui sont restés auprès de Dieu. Les premiers parce qu'ils ont suivi mon adversaire, se trouvent dans la profondeur. Et ces derniers auprès de moi, en toute perfection. En outre il vous faut distinguer les êtres qui portent encore en eux la volonté de l'adversaire, et les être déjà entrés dans ma volonté, mais pas encore achevés, donc qui sont toujours exposés à son influence. Et alors vous pourrez comprendre qu'il faut aider ces derniers par qu'ils sont trop faibles vis-à-vis de son influence. De même, vous pourrez vous expliquer la mission des êtres de la lumière qui pour les aider s'incarnent volontairement sur la terre. Et puis vous saisirez également la mission de l'homme Jésus, qui en tant qu'être de lumière a voulu exécuter une œuvre de sauvetage pour briser la puissance de mon adversaire. Tous étaient enfants de mon amour. Tant les êtres déchus que les êtres restés auprès de moi. Mais ces êtres ne sont pas restés égaux maintenant, ils sont devenus différents les unes des autres. Il y en avait des radieux et des sans-lumière, donc ils ne pouvaient plus habiter des sphères égales. Et donc, le règne de la lumière, et respectivement le règne des ténèbres, étaient devenus les séjours de ces êtres de caractères différents. Et entre ces deux règnes, il n'y avait pas de pont jusqu'à la descente de Jésus, un esprit angélique qui était demeuré auprès de moi, qui voulait jeter et a jeté ce pont par une œuvre de miséricorde d'un caractère unique. Aux êtres qui avaient perdu leur perfection par leur rébellion contre moi, il fallait un assistant parce que seuls, ils étaient trop faibles, même si un pont avait été jeté, parce que mon adversaire disposait lui aussi d'une grande force dont il pouvait faire usage vis-à-vis de ses ex-partisans. Mais les êtres demeurés auprès de moi étaient forts également parce qu'ils permettaient constamment à ma force d'amour de les irradier. Donc, la force d'un seul esprit angélique non déchu aurait pleinement suffi pour obtenir une victoire sur mon adversaire, et lui ravir sa suite. Mais cela aurait contredit ma loi de l'ordre éternel étant donné que cela n'aurait pas respecté le libre arbitre de tous les êtres qui avaient jadis suivi volontairement mon adversaire. Car une victoire gagnée de cette manière aurait mis les êtres dans l'impossibilité de se perfectionner. Il fallait donc chercher une autre méthode. L'amour devait faire un sacrifice. Il devait être à la discrétion de tout être déchu de se servir de ce sacrifice-là, c'est-à-dire de vouloir qu'il ait été fait pour lui. Mais seul, un homme peut faire un sacrifice. Un être de lumière peut bien avoir la volonté de se sacrifier lui-même, mais alors il lui faut faire le sacrifice en tant qu'homme, étant donné qu'en être lumineux, il n'est pas capable de souffrir. Et en même temps, il dispose de tant de force que tout lui est possible. Un homme, par contre, est un être faible, imparfait, sensible à la souffrance et au tourment, à qui il faut une énorme force de volonté pour prendre volontairement sur lui des souffrances et des tourments pour atteindre non pas pour soi, mais pour son prochain, une chose que son amour voudrait donner en cadeau aux hommes malheureux. C'est en simple homme qu'il devait faire ce sacrifice à son prochain. Il devait être capable de souffrir et de mourir. Ainsi vous comprendrez maintenant que l'homme Jésus ne devait point posséder de supériorité qui l'aurait distingué comme un homme d'un genre extraordinaire, bien que son âme fût un esprit de lumière. C'est vrai qu'elle n'avait pas parcouru la création, comme les âmes des hommes, des frères déchus. Malgré cela, cette âme, lorsqu'elle s'installa dans le corps charnel, qui comme le corps des autres hommes était un agglomérat de spirituel immature, était donc rempli des mêmes sensations, convoitises et passions, que l'homme Jésus devait apprendre à surmonter pendant sa vie terrestre. Car c'était sa mission, outre la rédemption. L'annulation de la dette du péché la plus accablante. De vivre une vie exemplaire pour démontrer aux hommes le chemin qui seul leur assure le retour auprès de moi. Si donc quelque chose était exigé des hommes tout à fait déficients, faibles, et liés par des passions, il fallait qu'il soit possible d'exécuter cette chose exigée. Et si l'homme Jésus voulait servir d'exemple, il fallait qu'il soit de même nature que son prochain. son origine extraordinaire ainsi que celle des êtres lumineux incarnés sur la terre et voulant aider les hommes ne permet point d'en conclure sur des facultés ou des supériorités extraordinaires qui ne nécessiteraient qu'une lutte moins dure contre soi-même afin de trouver sur la terre cette alliance avec moi qui est le but et la tâche de chaque homme sur terre et dont l'homme Jésus a donné l'exemple et prouvé que cet exemple peut être atteint. Tout ce que Jésus, en esprit de lumière, avait comme avantage il y a renoncé avant son incorporation en homme. Autrement, son œuvre n'aurait pas pu être ce qu'elle fut, une offrande portée par l'amour dont la bénédiction devait parvenir à tous les hommes. Mais il ne peut pas non plus être nié que, Dieu lui-même, a fait ce sacrifice, étant donné que le facteur décisif était l'amour qui remplissait en l'homme Jésus que donc moi-même qui pouvais être en lui après que lui en tant qu'homme se fut formé volontairement de sorte que je pouvais m'installer en lui, car il était devenu pour moi un vase récepteur. Et maintenant, il possédait plein de force et de lumière. Voilà encore un événement qui ne pouvait avoir lieu que seulement dans l'homme Jésus mais que maintenant tous les hommes doivent et peuvent exécuter sur eux-mêmes parce que ceux-ci sont maintenant aidés par le divin Rédempteur Jésus-Christ, qui en tant qu'homme a acquis une mesure de grâce dès lors accessible à tout homme. Et celui qui s'en servira arrivera donc également au but. Lui aussi atteindra l'unification avec moi sur la terre, lui aussi pourra recevoir force et lumière en quantité illimitée. Mais d'autres lumières encore vous seront données, car tant que des questions surgissent en vous, il en résulte la nécessité de vous faire parvenir de bonnes réponses. Et plus intensément vous désirez ces réponses, plus vite elles vous parviendront. Au dernier stade de leur développement sur Terre, les âmes qui évoluent des profondeurs peuvent s'attendre à l'incarnation en homme puis, lorsqu'elles ôteront le vêtement corporel, le cours de l'évolution sur Terre sera fini, et l'âme entrera dans le royaume spirituel, peu importe comment elle est formée au moment de quitter son vêtement corporel. Donc ces âmes parcourent leur chemin selon l'ordre divin. Elles se rachètent de la matière dure en servant, et avec cela elles montent peu à peu à la hauteur. Mais les âmes de lumière incarnées sur terre ne descendent à la terre que pour remplir une mission. Donc elles revêtent tout de suite le corps humain pour faire alors leur parcours sur la terre comme tout autre homme, et comme elles sont également sujettes à toutes les lois naturelles, et il leur faut lutter sur terre comme eux. C'est-à-dire que leur vêtement corporel leur posera les mêmes exigences qu'aux autres hommes, étant donné qu'il est composé de spirituels encore totalement sous-développés, de particules d'âme d'un esprit originel jadis déchu qui vit toujours dans la résistance contre Dieu, et que l'âme doit commencer à adoucir et à transformer, ce qui coûte toujours des luttes. Cette âme n'est pas consciente de son état lumineux antérieur, le corps terrestre produit en elle un obscurcissement égal au sien. Pourtant en un homme de ce genre l'amour s'enflammera plus vite et il sera plus vif, et ainsi, il chassera plus vite l'obscurité. Aussi une âme d'en haut tournera-t-elle toujours ses regards vers Dieu qu'elle apprendra extrêmement vite à reconnaître. À une telle âme, il ne faut en général pas longtemps pour s'unir à l'étincelle divine intérieure qui l'influencera donc aisément, et en même temps l'esprit et l'âme chercheront maintenant à influencer leurs vêtements extérieurs aussi, et réussiront. En effet, quand l'âme marche sur terre, il va toujours de soi qu'il lui faut lutter parce qu'en ce monde terrestre et matériel, elle a toujours des obstacles à écarter pour atteindre le but spirituel. Aucune âme ne peut arriver à la hauteur sans tourment, même pas une âme lumineuse, Parce qu'au début de son incarnation, elle s'est rendue dans la profondeur, dans un état de manque de connaissance, d'emprisonnement et de faiblesse. Voilà ce dont il faut toujours tenir compte lorsqu'on considère comme plus facile la course terrestre d'un être lumineux. Le corps terrestre est, et reste, une chaîne pour l'âme jusqu'au moment où elle le quitte. Malgré cela, les corps peuvent être, en plus, différents entre eux. Si la chair est née du péché, si rien que des qualités sataniques dominent les personnes qui engendrent une nouvelle vie, la chair peut encore être enracinée dans le péché, donc conserver en elle encore beaucoup de luciférien. Et d'un autre côté, un être nouvellement éveillé à la vie peut être redevable de sa vie à l'impulsion d'amour de deux personnes, et par conséquent, pour la plus grande part, de bonnes impulsions peuvent affluer à cet être, et le vêtement extérieur y correspondra. Elle portera en elle beaucoup de son héritage, et il lui faudra lutter plus ou moins durement pendant la vie terrestre, donc elle aura plus ou moins de difficultés à atteindre le but. En tout cas, aucune existence terrestre humaine ne restera sans lutte. Et même, souvent la vie terrestre d'un être de la lumière sera d'une difficulté extraordinaire parce que l'âme sans en connaître la raison ressent son séjour au monde terrestre comme un tourment. Pour remplir sa mission, souvent l'âme accepte un sort terrestre très dur. À cause de la défaillance d'Adam, le procédé d'engendrement est sans bénédiction, car il ne correspondait pas à la volonté de Dieu qui voulait donner au bon moment sa bénédiction au premier couple humain. Ce fut Lucifer qui a eu sa part dans l'engendrement des hommes, et il ne renoncera jamais au droit que lui a concédé la volonté d'Adam. Il prendra toujours part à la genèse d'une vie nouvelle, mais si la protection de Dieu est implorée, le degré d'amour des personnes peut le repousser jusqu'à une certaine limite. Et maintenant, vous comprendrez que Dieu lui-même repousse donc son adversaire en se créant un vêtement corporel pour lui-même où il veut s'installer un jour et qui doit lui servir de séjour déjà à la naissance. Car il est absolument certain que Dieu, dans ses actions, ne s'unira au grand jamais à son adversaire. Et il ne permettra non plus à son adversaire de mettre la main sur le porteur naturel de ce son vêtement. Car lui, Dieu est créateur d'éternité, qui a fait surgir tout et qui a assigné à tout son but et sa destination, a sûrement la puissance d'extérioriser de lui tout ce qu'il veut. Aussi lui sera-t-il possible de donner naissance à un homme sans l'acte de procréation selon la loi naturelle. Et en vérité il lui sera également possible de tenir à distance son adversaire jusqu'à ce que sa volonté soit faite. Car Dieu ne se revêt que d'un vêtement pur. Il ne s'allie point à quelque chose d'impur. Ce qui n'exclut pas que l'homme placé dans ce règne de l'imperfection, dans le règne appartenant à son adversaire, soit exposé à toutes sortes d'embarras et que, par conséquent, sa course terrestre n'en soit donc pas moins pleine de souffrance et de lutte que celle de son prochain. Car sans combat, il n'y aurait pas de victoire. Mais il fallait que l'adversaire de Dieu soit vaincu, et Jésus a vraiment soutenu le combat le plus dur qui ait jamais été combattu sur terre. Et il l'a soutenu en homme, non pas en Dieu. Amen.